Les deux derniers convives attendus arrivèrent presque ensemble. Ce fut d'abord le juge d'instruction Amadieu, un intime de la maison, un petit homme de 45 ans qu'une récente affaire anarchiste venait de mettre en évidence. Il avait une face plate et régulière de magistrat, à gros favoris blonds, qu'il tâchait de rendre aigu en se servant d'un monocle derrière lequel son œil pétillait. D'ailleurs très mondain, il était de la nouvelle école psychologue distinguée. Auteur d'un livre en réponse aux abus de la physiologie criminaliste, d'une ambition tenace, amoureux de publicité, guettant toujours l'occasion des affaires retentissantes qui donnent la gloire. Enfin parut le général de Bozonnet, l'oncle maternel de Gérard, un vieillard, grand et sec, au nez en bec d'aigle, que ses rhumatismes avaient forcé récemment à prendre sa retraite. Fait colonel après la guerre, en récompense de sa belle conduite à Saint-Privat, il avait gardé à Napoléon III la foi jurée, malgré ses attaches profondément monarchistes. On lui passait, dans son monde, cette sorte de bonapartisme militaire pour l'amertume qu'il mettait à accuser la République d'avoir tué l'armée. Et, brave homme, adorant sa sœur, Madame de Quinsac, il semblait surtout obéir à un désir secret de celle-ci, en acceptant les invitations de la baronne, comme pour rendre plus naturelle et plus excusable la continuelle présence chez elle de Gérard. Mais le baron et Dutheil revenaient du cabinet en riant très haut, d'un rire exagéré, sans doute afin de faire croire à la parfaite liberté de leur esprit. Et l'on passa dans la salle à manger, où brûlait un grand feu, dont les flammes joyeuses luisaient telles qu'un rayon de printemps, au milieu des fins meubles anglais d'acajou clair, chargés d'argenterie et de cristaux. La pièce, d'un vermouth tendre, avait un charme discret sous le jour pâle, et la table, au centre, avec la richesse de son couvert et la blancheur de son linge, ornée d'un point de Venise, semblait avoir miraculeusement fleuri. Toute une floraison de grosses roses thées, d'admirables fleurs pour la saison et d'un parfum délicieux. La baronne fit asseoir le général à sa droite, Amadieu à sa gauche, le baron prit à sa droite Dutheil, à sa gauche Gérard. Puis les enfants se placèrent au debout, Camille entre Gérard et le général, et Hyacinthe entre Dutheil et Amadieu. Et tout de suite, dès les œufs brouillés aux truffes, la conversation s'engagea, familière et gaie, cette conversation des déjeuners de Paris où défilent les événements grands et petits de la veille et de la matinée, les vérités ainsi que les mensonges de tous les mondes, le scandale financier, l'aventure politique, le roman paru, la pièce jouée, les histoires qui ne peuvent se dire qu'à l'oreille et qu'on raconte tout haut. Et, sous la légèreté de l'esprit qui se dépense, sous les rires qui sonnent souvent faux, chacun garde sa tourmente, sa débâcle intérieure, une détresse parfois qui va jusqu'à l'agonie. Bravement, avec sa tranquille impudence habituelle, le baron parla le premier de l'article de la Voix du Peuple. « Dites donc, vous avez lu l'article de Sagné ce matin ? C'est un de ces bons, il a de la verve, mais quel fou dangereux !» Cela mit tout le monde à l'aise, car cet article aurait sûrement pesé sur le déjeuner si personne n'en avait soufflé mot. « Encore le Panama qui recommence !» cria Dutheil. « Ah non, nous en avons assez !»« L'affaire des chemins de fer africains !» reprit le baron. « Mais elle est claire comme de l'eau de roche. Tous ceux que Sagné menace peuvent dormir bien tranquilles. Non, voyez-vous, c'est un coup pour jeter Barou à bas de son ministère. Il y aura pour sûr tantôt une demande d'interpellation. Vous allez voir le beau tapage. » Cette presse de diffamation et de scandale, dit posément Amadieu, est un dissolvant qui achèvera la France. Il faudrait des lois. Le général eut un geste de colère. Des lois? À quoi bon, puisqu'on n'a pas le courage de les appliquer? Il y eut un silence. D'un pas discret, le maître d'hôtel présentait des rougets grillés. Le service silencieux, dans la douceur tiède et embaumée de la pièce, ne laissait pas même entendre un bruit de vaisselle. Et, sans qu'on sût comment, la conversation avait brusquement changé. Une voix demanda « Alors, la reprise de la pièce est reculée ?»« Oui, dit Gérard, j'ai su ce matin que Polyeut ne passerait pas avant avril, au plus tôt. » Camille, muette jusque-là, occupée du jeune homme, s'efforçant de le reconquérir, regarda sa mère et son père de ses yeux luisants. Il s'agissait de la reprise où Sylviane s'entêtait à débuter. Mais le baron et la baronne gardèrent une sérénité parfaite, n'ayant plus depuis longtemps rien à ignorer l'un de l'autre. Ève était si heureuse du rendez-vous obtenu pour l'après-midi. Elle songeait uniquement à ce bonheur. L'imagination déjà là-bas, dans le nid d'amour, tandis qu'elle souriait d'une façon inconsciente à ses convives. Et le baron était bien trop occupé de la nouvelle démarche qu'il comptait faire en tempête aux Beaux-Arts pour emporter de haute lutte l'engagement. Il se contenta de dire « Comment voulez-vous qu'ils remontent les pièces à la comédie? Ils n'ont plus de femmes. » « Oh !» reprit simplement la baronne, « hier, dans cette pièce du vaudeville, Delphine Vigneault avait une robe exquise, et il n'y a qu'elle pour savoir se coiffer. » Alors Dutheil raconta, en gazant un peu à cause de Camille, l'aventure de Delphine et d'un sénateur bien connu. Puis, ce fut un autre scandale, la mort d'une amie de la maison, opérée trop brutalement par un chirurgien, affaire qui avait failli échouer entre les mains d'Amadieu. Et le général en profita, sans transition d'ailleurs, pour placer son amertume, sa sortie accoutumée contre l'organisation imbécile de l'armée actuelle. Le vieux Bordeaux luisait comme un sang vermeil dans le fin cristal des verres. Un filet de chevreuil aux truffes venait de mêler son fumet un peu âpre au parfum mourant des roses. Lorsque des asperges apparurent, une primeur si rare autrefois, et qui n'étonnait même plus. « Maintenant, dit le baron avec un geste désenchanté, il y en a tout l'hiver. » « Alors, demandait au même moment Gérard, c'est cet après-midi la matinée de la princesse de Harz ? » Camille vivement intervint. « Oui, cet après-midi. Irez-vous ? » « Non, je ne pense pas, je ne pourrai pas, » répondit le jeune homme gêné. « Ah, cette petite princesse !» s'écria Dutheil. « Elle est décidément toquée. Vous n'ignorez pas qu'elle se dit veuve. La vérité serait que son mari, un vrai prince, allié à une famille royale et beau comme le jour, voyagerait par le monde en compagnie d'une cantatrice. Elle, avec sa tête de gamin vicieux, a préféré venir régner à Paris, dans cet hôtel de l'avenue Kléber, qui est bien l'arche la plus extraordinaire, où le cosmopolitisme pullule en pleine extravagance. « Taisez-vous, mauvaise langue !» interrompit doucement la baronne. « Ici, nous aimons beaucoup Rosemonde, qui est une charmante femme. » « Mais certainement, » reprit de nouveau Camille. « Elle nous a invités et nous irons tantôt chez elle, n'est-ce pas, maman ?» La baronne, pour ne pas répondre, affecta de n'avoir pas entendu, pendant que Dutheil, qui paraissait très renseigné, continuait à s'égayer sur la princesse et sur la matinée qu'elle donnait, où elle devait produire des danseuses espagnoles, d'une mimique si lascive que tout Paris, averti, allait s'écraser chez elle. Et il ajouta « Vous savez qu'elle a lâché la peinture, elle s'occupe de chimie. C'est plein d'anarchistes à présent dans son salon. Il m'a semblé qu'elle vous poursuivait, mon cher Hyacinthe. » Jusque-là, Hyacinthe n'avait pas desserré les lèvres, comme détaché de tout. « Oh, elle m'assomme » daigna-t-il répondre. « Si je vais à sa matinée, c'est dans l'espoir d'y rencontrer mon ami, le jeune Lord Helson, qui m'a écrit de Londres pour m'y donner rendez-vous. J'avoue que c'est le seul salon où je trouve avec qui causer. » « Ainsi, demanda ironiquement Amadieu, vous voilà passé à l'anarchie. » Imperturbable, de son air de haute élégance, Hyacinthe fit sa profession de foi. « Mais, monsieur, il me semble qu'en ces temps de bassesse et d'ignominie universelle, un homme de quelque distinction ne saurait être qu'anarchiste. » Un rire courut autour de la table. On le gâtait beaucoup, on le trouvait très drôle. Son père, surtout, s'amusait à l'idée d'avoir, lui, un fils anarchiste. Et le général, dans ses heures de rancune, parlait de chambarder une société assez bête pour se laisser mener par quatre polissons. Seul le juge d'instruction, qui était en train de se faire une spécialité des affaires anarchistes, lui tint tête, défendit la civilisation menacée, donna des détails terrifiants sur ce qu'il appelait l'armée de la dévastation et du massacre. Mais les autres convives continuaient de sourire, en mangeant d'un pâté de foie de canard vraiment délicieux, que passait le maître d'hôtel. Il y avait tant de misère, il fallait tout comprendre, les choses finiraient par s'arranger. Le baron lui-même déclara d'un air conciliant « C'est certain, on pourrait faire quelque chose. » « Quoi ? Personne ne le sait au juste. Les revendications sages, oh, je les accepte d'avance. Par exemple, améliorer le sort de l'ouvrier, créer de bonnes œuvres. Tenez, comme notre asile des invalides du travail, dont nous avons raison d'être fiers. Mais il ne faut pas qu'on nous demande l'impossible. » Au dessert, il se fit un moment de brusque silence, comme si, dans le papotage des conversations, sous l'étourdissement du copieux déjeuner, la préoccupation, la détresse de chacun serraient de nouveau les cœurs, reparaissaient sur les faces effarées. Et l'on vit renaître l'inconscience inquiète de Dutheil, menacée de délation, la colère anxieuse du baron, se demandant comment il allait pouvoir contenter Sylviane. Cette fille était sa tare, à lui, si solide, si puissant, le mal secret qui finirait peut-être par le ronger et le détruire. Et l'on vit surtout passer l'affreux drame sur les visages de la baronne, de Camille et de Gérard. Cette rivalité haineuse de la mère et de la fille, se disputant l'homme qu'elles aimaient. Les lames de vermeil pelaient délicatement les fruits. Il y avait des grappes de raisins dorés d'une admirable fraîcheur. Et des sucreries, des gâteaux défilèrent, une infinité de friandises où s'attardaient complaisamment les appétits repus. Puis, comme on servait les rince-bouche, un valet vint se pencher à l'oreille de la baronne, qui répondit à demi-voix « Eh bien, faites-le entrer au salon, je vais l'y retrouver. » Et plus haut, aux convives, « C'est monsieur l'abbé Froment qui est là et qui insiste pour être reçu. Il ne nous gênera pas, je crois que vous le connaissez tous. Oh, un véritable saint, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. » On s'oublia quelques minutes encore autour de la table et l'on quitta enfin la salle à manger, toute odorante des mets, des vins, des fruits et des roses, toutes chaudes des grosses bûches qui étaient tombées en braise, dans la gaieté un peu en déroute des cristaux et de l'argenterie, sous le jour pâle et fin, éclairant la débandade du couvert. Au milieu du petit salon, bleu et argent, Pierre était resté debout. Il regrettait maintenant d'avoir insisté, en voyant sur une table le plateau où le café et les liqueurs étaient servis. Puis son embarras augmenta lorsque les convives entrèrent un peu bruyamment, les yeux brillants et les joues roses. Mais sa flamme de charité s'était rallumée en lui, si ardente qu'il vainquit cette gêne. Et il ne lui resta que le sourd malaise d'apporter l'effroyable matinée de misère qu'il avait vécue. Tant de noir et de froid, tant de saleté et de faim dans cette richesse, si claire, si tiède, si parfumée, débordante d'inutile et de superflu, au milieu de ces gens qui semblaient très gais d'avoir bien déjeuné. Tout de suite, la baronne s'avança avec Gérard, car c'était par celui-ci, dont il connaissait la mère, que le prêtre avait été présenté au Duvillard, à l'époque de la fameuse conversion. Et, comme il s'excusait de se présenter à cette heure, « Mais vous êtes toujours le bienvenu, monsieur l'abbé. Vous permettez que je m'occupe de mes hôtes, je suis à vous dans un instant. » Elle retourna près du plateau pour servir le café et les liqueurs, aidée de sa fille. Gérard demeura, et justement il entretint Pierre, de l'asile des Invalides du Travail, où tous deux s'étaient rencontrés récemment à l'occasion d'une cérémonie, la pose de la première pierre d'un nouveau pavillon que l'on bâtissait grâce au don superbe de 100 000 francs, fait à l'œuvre par le baron du Villard. L'œuvre ne comptait encore que 4 pavillons, et le projet primitif en prévoyait 12 sur le vaste terrain donné par la ville dans la presqu'île de Gennevilliers. De sorte que la souscription restait ouverte et qu'il se menait un grand bruit de cet effort charitable, réponse retentissante et péremptoire au mauvais esprit qui accusait la bourgeoisie repue de ne rien faire pour les travailleurs. La vérité était qu'une magnifique chapelle, érigée au milieu du terrain, avait absorbé les 2/3 des fonds réunis. Des dames patronesses, prises dans tous les mondes, Madame la baronne du Villard, Madame la comtesse de Quinsac, Madame la princesse Rosemonde de Hars, 20 autres avaient la charge de faire vivre l'œuvre, à l'aide de quêtes et de ventes de charité. Mais surtout, le succès était venu de l'heureuse idée d'avoir débarrassé ces dames des gros soucis de l'organisation, en choisissant pour administrateur général le rédacteur en chef du Globe, le député Fonsègue, un brasseur d'affaires prodigieux. Et le Globe faisait une propagande continue, répondait aux attaques des révolutionnaires par l'inépuisable charité des classes dirigeantes. Et, lors des dernières élections, l'œuvre avait ainsi servi d'arme électorale triomphante. Camille se promenait, une petite tasse fumante à la main. « Monsieur l'abbé, prenez-vous du café ?»« Non, merci, mademoiselle. » »« Un petit verre de chartreuse, alors ?»« Non, merci. » Et tout le monde étant servi, la baronne revint pour demander aimablement « Voyons, monsieur l'abbé, que désirez-vous de moi ?» Pierre commença presque à voix basse, la gorge serrée, envahi d'une émotion qui lui faisait battre le cœur. « Je viens, madame, m'adresser à votre grande bonté. J'ai vu ce matin, dans une affreuse maison de la rue des Saules, derrière Montmartre, un spectacle qui m'a bouleversé l'âme. Vous n'avez point idée d'une pareille maison de misère et de souffrance. Les familles sans feu, sans pain, les hommes réduits au chômage, les mères n'ayant plus de lait pour leurs nourrissons, les enfants à peine vêtus, toussant et grelottant. Et parmi tant d'horreurs, j'ai vu la pire, la plus abominable. un vieil ouvrier, terrassé par l'âge, mourant de faim, tombé sur un tas de loques dans un réduit dont un chien ne voudrait pas. Il tâchait d'y mettre le plus de discrétion possible, épouvanté des mots qu'il disait, des choses qu'il racontait, dans ce milieu de grand luxe et de jouissance, devant ces heureux, comblés des joies de ce monde, car il sentait bien qu'il détonnait d'une façon discourtoise. Quelle étrange idée d'être venu à l'heure où l'on finit de déjeuner, lorsque l'arôme du café brûlant caresse les digestions ravies. Pourtant, il continuait. Il finissait même par élever la voix, cédant à la révolte qui le soulevait peu à peu, allant jusqu'au bout de son récit terrible, nommant la veuve, précisant l'injuste abandon, demandant au nom de la pitié humaine aide et secours. Et tous les convives s'étaient approchés pour l'écouter. Il voyait devant lui le baron et le général, et Dutheil, et Amadieu, qui buvaient à petites gorgées leur café, silencieux, sans un geste. « Enfin, madame, conclut-il, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas laisser une heure de plus ce vieil homme dans cette effroyable position, et que, dès ce soir, vous auriez la grande bonté de le faire admettre à l'asile des invalides du travail, où sa place me semble marquée tout naturellement. » Des larmes avaient mouillé les beaux yeux d'Ève. Elle était consternée d'une si triste histoire, tombant dans la joie qu'elle se promettait pour l'après-midi. Très molle, sans initiative, trop occupée de sa personne, elle n'avait accepté la présidence du comité qu'à la condition de se décharger sur Fonsègue de tous les soucis administratifs. « Ah, oh, monsieur l'abbé, murmura-t-elle, vous me fendez le cœur, mais je ne puis rien, rien du tout, je vous assure. Cela veuve, d'ailleurs, je crois bien que nous avons déjà examiné son affaire. Vous savez que chez nous, les admissions sont entourées des garanties les plus sérieuses. On nomme un rapporteur qui doit nous renseigner. Et n'est-ce pas vous, monsieur Dutheil, qui vous étiez chargé de ce la veuve ? » Le député achevait un petit verre de chartreuse. « Mais oui, c'est moi, monsieur l'abbé. Ce gaillard-là vous a joué une comédie. Il n'est pas malade du tout. Et si vous lui avez laissé de l'argent, il sera descendu le boire derrière votre dos, car il est toujours ivre. Et avec ça, l'esprit le plus exécrable, criant du matin au soir contre les bourgeois, disant que s'il avait encore des bras, ce serait lui qui ferait sauter la boutique. D'ailleurs, il ne veut pas y entrer à l'asile. Une vraie prison où l'on est gardé par des béguines qui vous forcent à entendre la messe. Un sale couvent dont on ferme les portes à 9 heures du soir. Et il y en a tant comme cela qui préfèrent leur liberté, avec le froid, la faim et la mort. Que les laveuves crèvent donc dans la rue, puisqu'ils refusent d'être avec nous, d'avoir chaud et de manger dans nos asiles. » Le général et Amadieu approuvèrent d'un hochement de tête. Mais Duvillard se montrait plus généreux. « Non, non, un homme est un homme. Il faut le secourir malgré lui. » Ève, tout à fait désespérée à l'idée qu'on allait lui prendre son après-midi, se débattit, trouva des raisons. « Je vous assure que j'ai les mains absolument liées. Monsieur l'abbé ne doute ni de mon cœur ni de mon zèle. Mais comment veut-on que je réunisse, avant quelques jours, le comité de ces dames, sans lequel je tiens formellement à ne prendre aucune décision, surtout dans une affaire déjà examinée et jugée ? » Et brusquement, elle eut une solution. « Ce que je vous conseille de faire, monsieur l'abbé, c'est d'aller voir tout de suite monsieur Fonsègue, notre administrateur. Dans un cas pressant, il peut seul agir, car il sait que ces dames ont en lui une confiance sans bornes et qu'elles approuvent tout ce qu'il fait. « Vous trouverez Fonsègue à la chambre, » ajouta Dutheil en souriant. « Seulement, la séance va être chaude. Je doute que vous puissiez l'entretenir à l'aise. » Pierre, dont le cœur s'était serré davantage, n'insista pas. Tout de suite résolu à voir Fonsègue, à obtenir quand même, avant le soir, l'admission du misérable, dont l'atroce image le hantait. Et il resta là, quelques minutes encore, retenu par Gérard, qui, obligeamment, lui indiquait le moyen de convaincre le député, en alléguant le mauvais effet d'une pareille histoire si elle s'ébruitait dans les journaux révolutionnaires. D'ailleurs, les convives commençaient à partir. Le général, avant de se retirer, vint demander à son neveu s'il le verrait l'après-midi chez sa mère. Madame de Quinsac, dont c'était le jour. Question à laquelle le jeune homme se contenta de répondre d'un geste évasif, lorsqu'il s'aperçut qu'Ève et Camille le regardaient. Puis, ce fut le tour d'Amadieu qui se sauva en disant qu'une grave affaire le réclamait au palais. Et bientôt, Dutheil le suivit pour se rendre à la chambre. « De 4 à 5 chez Sylviane, n'est-ce pas ?» lui dit le baron en le reconduisant. « Venez m'y raconter ce qui se sera passé à la chambre à la suite de cet article odieux de Sagné. Il faut pourtant que je sache. Moi, j'irai aux Beaux-Arts pour arranger l'affaire de la comédie. Et puis, j'ai des courses, des entrepreneurs à voir, une grosse affaire de publicité à régler. » « Entendu, de 4 à 5 chez Sylviane, comme d'habitude, » dit le député, qui partit, repris d'un vague malaise, inquiet de la façon dont tournerait cette vilaine histoire des chemins de fer africains. Et tous déjà avaient oublié la veuve, le misérable qui agonisait, et tous couraient à leurs soucis, à leurs passions, ressaisi par l'engrenage, retombé sous la meule, dans cette ruée de Paris dont la fièvre les charriait, les heurtait en une ardente bousculade à qui arriverait le premier en passant sur le corps des autres. « Alors, maman, » demanda Camille, qui continuait à dévisager sa mère et Gérard, « tu vas nous mener à la matinée de la princesse ?»« Tout à l'heure, oui. » « Seulement, je ne pourrai y rester avec vous. J'ai reçu ce matin une dépêche de Salmon pour mon corsage, et il faut absolument que j'aille l'essayer, à 4 heures. » La jeune fille fut certaine du mensonge, au léger tremblement de la voix. « Tiens, je croyais que l'essayage n'était que pour demain. Alors, nous irons te reprendre chez Salmon avec la voiture en sortant de la matinée. » Ah, pour cela, non, ma chère, on ne sait jamais quand on est libre. Et d'ailleurs, si j'ai un moment, je passerai chez la modiste. » Une sourde rage fit monter une flamme meurtrière aux yeux noirs de Camille. Le rendez-vous était évident. Mais elle ne pouvait, elle n'osait pousser les choses plus loin, dans son besoin passionné d'inventer un obstacle. Elle avait vainement tenté d'implorer Gérard, qui détournait la tête, debout, pour partir. Et Pierre, au courant de bien des choses depuis qu'il fréquentait la maison, eut conscience, à les sentir si frémissant, de l'inavouable drame silencieux. Allongé dans un fauteuil, achevant de croquer une perle d'éther, la seule liqueur qu'il se permit, Hyacinthe éleva la voix. « Moi, vous savez que je vais à l'exposition d'Ulysse. Tout Paris s'y écrase. Il y a là surtout un tableau, le viol d'une âme, qu'il faut absolument avoir vu. »« Eh bien, mais je ne refuse pas de vous y conduire, » reprit la baronne. « Avant d'aller chez la princesse, nous pouvons passer par cette exposition. »« C'est cela, c'est cela, » dit vivement Camille, qui plaisantait durement d'ordinaire les peintres symbolistes, mais qui devait projeter d'attarder sa mère avec l'espoir encore de lui faire manquer le rendez-vous. Puis, s'efforçant de sourire, « Vous ne vous risquez pas au lys avec nous, monsieur Gérard ?»«
Ma foi, non, » répondit le comte. « J'ai besoin de marcher. Je vais accompagner monsieur l'abbé Froment jusqu'à la chambre. »
Et il prit congé de la mère et de la fille, en leur baisant la main à toutes deux.
pour attendre 4 heures, il venait de songer qu'il monterait un instant chez Sylviane, où il avait ses petites entrées lui aussi, depuis qu'il y était resté un soir à coucher. Dans la cour, vide et solennelle, il dit au prêtre « Ah, ça fait du bien de respirer un peu d'air froid. Il chauffe trop chez eux, et toutes ces fleurs portent à la tête. » Pierre s'en allait, étourdi, la fièvre aux mains, l'essence lourde de tout ce luxe qu'il laissait là, comme le rêve d'un brûlant paradis embaumé où ne vivaient que des élus. Son besoin nouveau de charité s'y était d'ailleurs exaspéré. Il ne réfléchissait qu'aux moyens d'obtenir de Fonsègue l'admission de la veuve, sans écouter le comte qui lui parlait très tendrement de sa mère. Et, la porte de l'hôtel étant retombée, ils avaient fait quelques pas dans la rue, lorsque la conscience d'une brusque vision lui revint. N'avait-il pas vu, au bord du trottoir d'en face, regardant cette porte monumentale, close sur de si fabuleuses richesses, un ouvrier arrêté, attendant, cherchant des yeux, dans lequel il avait cru reconnaître Salva avec son sac à outils, cet affamé parti le matin en quête de travail? Vivement, il se retourna, inquiet d'une telle misère devant tant de possessions et de jouissances. Mais l'ouvrier, dérangé dans sa contemplation, craignant peut-être aussi d'avoir été reconnu, s'éloignait d'un pas traînard. Et, à ne plus l'apercevoir que de dos, Pierre hésita, finit par se dire qu'il s'était trompé.